C'est un petit bijou d'émotion et d'humour que vous allez découvrir dans France Bleu Soir. Bonsoir à vous. J'espère que le week-end et la journée sont bien passés. Bon courage si vous avez repris le travail aujourd'hui. Vous allez complètement craquer pour Mon Bébé en salle après-demain avec nos deux invités, Lisa Azuelos et Sandrine Kiberlin, qui vont vous retrouver après le journal de Frédéric Dorel. Bonsoir.
Bonsoir Arnold, bonsoir à tous.
En Algérie, le président Bouteflika annonce qu'il ne brigue pas de cinquième mandat.
C'est ce qu'attendaient des millions d'Algériens. Le Premier ministre démissionne également. Bref, ça bouge en ce moment à Alger. Nous ferons le point avec Nicolas Ballu. Des policiers et des gendarmes fatigués un peu partout en France, mobilisés, surmobilisés depuis 4 ans maintenant. Ils sont fatigués aussi d'attendre la réponse du gouvernement. Leurs proches manifesteront donc demain. La fermeture des centrales à charbon revient sur la table. La secrétaire d'État Brune Poirson retient l'horizon 2022, mais on verra que ça ne se fera pas si simplement.
Et puis pas simple non plus le développement des voitures électriques.
La France a pris beaucoup de retard à cause de la valorisation du diesel pendant des années. L'État est donc appelé à la rescousse pour gérer ces milliers d'emplois aujourd'hui menacés. Nous serons en direct avec Pascal Pennec, rédacteur en chef adjoint du magazine Auto Plus. Les boîtes noires retrouvées après la catastrophe d'hier en Éthiopie, les 157 morts pourraient être dus à un défaut de formation des pilotes. L'info sport de ce lundi, le retour au Real Madrid de Zinedine Zidane. Peut-être dès demain même, le secret a été bien gardé. Et puis Arnold, vous recevez Sandrine Kiberlin et Lisa Azuelos ce soir.
Ah oui, on a vraiment hâte qu'elle vous retrouve parce que ce film Mon Bébé est un pur petit bijou. Oui. Vous allez le découvrir jusqu'à 20h. Mais pour l'instant, le journal.
France Bleu Soir. France Bleu Soir. Arnold Derek, Frédéric Dorel.
Frédéric Dorel, d'abord cette nouvelle qui vient de tomber, hein, qui va réjouir de nombreux Algériens.
Abdelaziz Bouteflika renonce à se présenter à la présidentielle. Nicolas Ballu, le vieux président, ne brigue donc pas de cinquième mandat.
Non, il l'a fait savoir il y a quelques minutes. Non seulement la contestation ne faiblissait pas, mais elle se renforçait de jour en jour. Il y a d'abord eu les jeunes, puis toutes les couches de la population. Une partie du pays a même suivi une partie de la grève générale. Et ce matin, ce sont un millier de juges, mais également des responsables religieux qui ont élevé la voix contre une candidature Bouteflika. En face, peut-être devenait-il compliqué de se raidir. Ouais. Certes, il y a quelques jours encore, le président algérien mais aussi le chef de l'armée omniprésente dénonçait les risques de chaos. Le chef de l'armée qui a fini par se montrer prudent. L'armée partage les valeurs et les principes du peuple, disait-il ce week-end. C'était probablement un signe.
Et alors, l'annonce du report de cette élection, puisque c'est de ça qu'on parle, va permettre à l'opposition de s'organiser maintenant.
Oui, elle va surtout permettre au pouvoir de gagner du temps. Il n'y a pas pour le moment de date annoncée pour l'élection présidentielle. Oui. Le Premier ministre vient de démissionner et Abdelaziz Bouteflika vient d'annoncer une conférence nationale pour réformer le système politique et élaborer un projet de constitution. Ça veut dire que ça va bien au-delà de la personne de Bouteflika. On peut donc dire que c'est une victoire pour le peuple algérien, mais c'est désormais un autre combat qui commence.
Un grand débat donc en Algérie. Merci Nicolas Ballu.
Au Royaume-Uni, la Première ministre Theresa May est plus que jamais empêtrée dans son accord de Brexit.
Elle va retenter sa chance à Strasbourg. Elle est en route d'ailleurs ce soir et un nouveau vote aura lieu demain avant peut-être un autre mercredi et encore un jeudi. Peut-être.
Et puis ça y est, c'est confirmé, la France fermera ses 4 dernières centrales à charbon d'ici 2022.
L'objectif est d'avoir un bilan carbone neutre en 2050. Grosse ambition hein, qui devrait donc figurer dans la future loi énergie, mais qui soulève encore beaucoup de doutes, hein, Thomas Séchier.
Oui, pas facile d'abandonner le charbon, même si l'objectif est rappelé par la ministre Brune Poirson aujourd'hui. La centrale à charbon la plus importante parmi les 4 encore en activité, c'est celle de Cordemais entre Nantes et Saint-Nazaire. Elle alimente en électricité une bonne partie de la Bretagne et on ne pourra la fermer qu'à condition que l'EPR de Flamanville soit entré en service. Ah. Et avec Flamanville, on a appris à être patient.
C'est sûr.
Ensuite, il y a la question des emplois. 800 emplois directs, 4000 indirects dépendent de ces 4 sites et dans le contexte actuel, vous l'aurez compris, c'est impossible de les abandonner.
Et c'est pour ça que l'État réfléchit à des solutions de reconversion.
Oui, mais là, ce sont les ONG de l'environnement qui s'inquiètent. On a déjà commencé à transformer des centrales à charbon en centrales à biomasse qui utilisent du bois, sauf que le bois, on le fait venir de l'étranger. À Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône par exemple, la moitié du bois utilisé vient du Brésil et d'Espagne. Bonjour l'empreinte carbone.
C'est
et
sûr,
quand même le bois serait local. Brûler du bois, ça pollue beaucoup plus et ça abîme les centrales, disent les spécialistes. Alors la fin du charbon en 2022, ce n'est toujours pas si sûr.
Merci Thomas Séchier.
Concernant la pollution automobile, c'est pareil. Le gouvernement est en mode équilibriste.
Avec d'un côté une secrétaire d'État à la transition écologique qui demande aux constructeurs d'accélérer sur les voitures électriques. Et de l'autre, un ministre de l'économie qui tente d'aider ces mêmes constructeurs à négocier le virage. 15 000 emplois sont en jeu, cette fois jusqu'à 15 000 emplois. Pascal Pennec, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes rédacteur en chef adjoint au magazine AutoPlus. On va voir avec vous si le gouvernement est en mesure d'exiger cette progression de l'électrique. Est-ce que les constructeurs peuvent faire plus, plus vite ?
Ça leur est compliqué parce que vous savez que l'automobile, l'industrie automobile, c'est un vrai paquebot. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on décide de prendre une mesure, quelle qu'elle soit, ça va se transformer, ça va apparaître sur les voitures que 3 ans après, parce que entre la conception de quelque chose et le moment où c'est vraiment sur le marché, il faut tout le temps et c'est déjà un grand progrès. Avant, c'était 10 ans.
Donc, et on ne peut pas transformer les 15 000 emplois qui sont liés au diesel et qui sont menacés aujourd'hui ne peuvent pas être basculés comme ça tout de suite sur des lignes de production de voitures électriques.
Et non, ça serait trop simple évidemment, parce que surtout ces 15 000 emplois qui sont menacés, ce ne sont pas chez les constructeurs en eux-mêmes, c'est au contraire tous les petits fournisseurs qui alimentent la production automobile. Il faut imaginer que il y a des ce qu'on appelle des équipementiers de rang 1, rang 2, rang 3, ça veut dire que ne serait-ce que pour avoir un simple boulon qui va permettre à un autre plus gros de produire une pièce, cette pièce qui va servir à un autre encore plus gros pour fournir quelque chose, etc. C'est une chaîne absolument formidable.
Tous les sous-traitants,
oui. Ce qui est formidable dans la voiture électrique, c'est qu'il y a besoin de beaucoup, beaucoup moins de pièces, en plus pour les voitures qui sont sans doute plus fiables. Mais par contre, tout ça demande une évolution et tout a été en fait tellement accéléré depuis la fameuse affaire du Dieselgate que tout le monde a été pris de court et il faut s'adapter. Mais le problème de l'industrie automobile, c'est qu'elle a besoin de temps.
Et c'est ça, hein, les constructeurs sont furieux en plus parce que pendant des années, l'État a favorisé le diesel et tout d'un coup, il y a eu un revirement de situation, pas au nom du climat, mais parce qu'il y avait un problème sur le diesel.
Bah, c'est un ensemble de choses, mais c'est vrai que tout a été fait en Europe pour que le diesel serve en quelque sorte de... c'était une façon de faire du protectionnisme. Hein. Mmh. Et du coup, l'Europe a été à fond dans cette filière-là. C'est pas le gouvernement français qui veut autant de voitures électriques. C'est une norme européenne qui a été décidée parmi laquelle la France en tant qu'État membre. Mais c'est donc imposé, ça tombe d'un coup, puisque c'était vraiment pas le calendrier qui était prévu à l'origine. Or, encore une fois, bon, les industriels peuvent s'adapter à tout, mais à condition d'avoir le temps de le faire, d'avoir des calendriers précis. Et ces calendriers ont été totalement modifiés. C'est en ça que, pour eux, c'est très compliqué.
Donc pour vous, c'est possible, réalisable, multiplier les ventes de voitures électriques par 5 d'ici 2022 ?
Par 5, c'est à peu près faisable, oui. En fait, le problème, c'est que les voitures électriques, pour le moment, il y en a très très peu. Il y a 3 ou 4 modèles véritablement sur le marché français. Tout le reste, les autres sont très marginales. Mais l'offre va arriver à partir de l'année prochaine, 2020-2021. Là, la grosse artillerie va commencer à arriver. Et si elle arrive à temps, tout va bien. Si elle arrive en retard, bon, ça sera une échéance qui est quelque peu retardée. Le grand souci des industriels, encore une fois, c'est que 40% de la valeur de la voiture électrique provient d'une batterie. Or, l'Europe n'a aucune compétence dans la batterie électrique. Elle va être obligée de tout acheter à la filière asiatique. Et c'est en ça où c'est une catastrophe pour nos emplois si l'Europe n'arrive pas à s'adapter. Mais ils ont déjà tellement de retard que ça va être très compliqué.
Merci Pascal Pennec, rédacteur en chef adjoint au magazine AutoPlus. Très bonne soirée à vous.
Merci.
Les lycéens débattront vendredi dans leurs établissements entre 16h et 18h.
Sur l'environnement, c'est le ministre Blanquer qui l'annonce dans la foulée des Vendredis pour le climat qui a été lancé par la jeune Suédoise Greta Thunberg.
Il est 19h09. Dans la suite du journal de Frédéric Dorel, nous nous intéresserons aux boîtes noires qui vont pouvoir parler au lendemain du crash qui a fait 157 morts en Éthiopie. L'hypothèse avancée pour l'instant, c'est un manque de formation des pilotes ajouté à un problème technique. Zidane revient entraîner le Real Real Madrid. Ça, c'est la surprise de la journée après un départ en pleine gloire pour l'ancien champion du monde. Voilà maintenant le retour en sauveur. Mais d'abord, la grosse fatigue en France des forces de l'ordre.
Depuis les attentats de 2015, policiers et gendarmes accumulent les missions sans parfois même avoir le temps de rentrer chez eux. Et malgré la mobilisation de l'an dernier, rien ne change. Demain, ce sont donc leurs familles qui manifesteront, comme Angèle au Mans.
Ça fait plus de 2 ans qu'on se bat pour montrer l'état d'épuisement psychologique, comment sont traitées nos forces de l'ordre. Ce ne sont plus des hommes, c'est juste des matricules maintenant. On a plusieurs filles de l'association qui n'ont pas vu effectivement leur conjoint depuis un mois et demi, ou qui les voient 3 jours par mois. Pour ma part, à moi, ça va. Il arrive à faire la part des choses entre effectivement donc ses missions, voilà, et effectivement donc les moments où on peut se retrouver un week-end. J'évite d'en parler, on n'en parle pas le week-end, effectivement, quand on se voit, on n'en parle pas. On profite effectivement donc du moment, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident pour tout le monde. Sur certains, au bout d'un moment, enfin, ils n'arrivent plus à décrocher. En fait, ils sont tout le temps effectivement en train de penser et ça use. Et c'est ce qui arrive au bout d'un moment à la fatidique du suicide. Et quand on sait qu'on est déjà à 18 suicides, c'est vraiment effectivement énorme et inconcevable.
Angèle, qui milite chez les femmes de force de l'ordre en colère au Mans. Le rassemblement est prévu à 20h demain soir, comme à Paris d'ailleurs.
Oui, dans les prisons aussi, les gardiens restent mobilisés.
Ils demandent toujours davantage de moyens. Au 6e jour de mobilisation, 18 établissements sont impactés, d'après l'administration pénitentiaire. Une centaine, selon FO.
Les boîtes noires doivent maintenant livrer leurs secrets dans la catastrophe qui a fait 157 morts en Éthiopie.
Elles ont été retrouvées ce matin. 9 Français figurent parmi les victimes, 9 Français, dont une Bretonne de 35 ans qui allait au Kenya pour participer à l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement. Alors qu'est-ce qui a causé cette catastrophe? C'est dans l'avion, Nathalie Delperra, ou chez Boeing?
Eh bien un peu des deux. C'est vrai que mécaniquement, il y a un problème de stabilisation de la gouverne de profondeur. C'est ça, a priori, qui a fait sombrer en mer un même appareil de la compagnie indonésienne Lion Air en octobre dernier. En clair, l'avion commence à piquer du nez et les pilotes ne peuvent pas le redresser, ou plutôt ne savent pas le redresser, ce qui est très difficile. Parce que dès cet accident, Boeing est au courant du problème, mais le constructeur ne juge pas utile de former les pilotes au cas où ils soient confrontés à cette panne, malgré les mises en garde de l'aviation civile américaine. Tout ça pour des histoires de coûts. Alors, si les boîtes noires de l'avion éthiopien sont exploitables, on pourra déjà vérifier si c'est bien la même panne.
Et c'est important, on l'a bien compris. Alors, comment réagit Boeing?
Nada, pour le moment. Boeing ne prend aucune mesure particulière et se contente d'envoyer du personnel en Éthiopie pour aider à l'enquête. Il faut dire que l'entreprise est mal, les enjeux économiques sont de taille. Le 737 MAX vole depuis moins de 2 ans. Il y en a 350 exemplaires en service déjà dans le monde entier. Aucun pour une compagnie française, je vous précise. Bon, en tout cas, c'est l'avion vedette qui rapporte beaucoup et le constructeur prévoyait même d'augmenter la production. En tout cas, le cours de Boeing a chuté de 7% à la mi-journée, aujourd'hui à la Bourse de New York. Oui. Et la présentation officielle du nouveau long courrier 777X qui était prévu dans 2 jours a été reporté.
Merci Nathalie Delperra. Emmanuel Macron sera demain et mercredi en Éthiopie, puis au Kenya, notamment dans le cadre de la conférence de l'ONU sur le climat. Et toutes ces informations sur Boeing et cet accident sont sur francebleu.fr.
En Belgique à présent, la justice demande la perpétuité à l'encontre de Medine Mouche.
Le djihadiste reconnu coupable jeudi de la tuerie au musée juif de Bruxelles attend maintenant le verdict. Invité à prendre la parole tout à l'heure avant que la cour d'assises se retire pour délibérer, il a lancé « La vie continue » avec un léger sourire.
Une page sport à présent à 19h13, c'est l'info de la journée. Zinedine Zidane revient au Real Madrid.
9 mois après son départ, surprise, l'ancien champion du monde va faire son retour, donc peut-être dès demain pour remplacer l'Argentin Santiago Solari. Amaya Cazenave, l'info n'avait fuité nulle part.
Ah oui, c'est un cataclysme, on ne s'y attendait pas du tout. Le Français devrait être sur le terrain de Valdebebas, le centre d'entraînement madrilène, dès demain matin pour diriger la séance. Réclamé par le vestiaire, il a signé un contrat de 3 ans et obtenu la mainmise sur les prochains recrutements du Real. Il arrive avec son adjoint, son homme de confiance, David Bettoni. Zidane et le Real Madrid, c'est une success story, d'abord commencé en tant que joueur entre 2001 et 2006. Puis sur le banc des Merengues, en 3 saisons, il rend remporte 9 trophées, la Liga en 2017, 2 Coupes du Monde des clubs, 2 Super Coupes d'Europe, mais surtout, il signe un incroyable triplé, 3 Ligues des Champions remportées entre 2016 et 2018. L'ex numéro 10 des Bleus est parti au sommet de sa gloire le 31 mai dernier, et là, il va retrouver un club en perdition, 3e du championnat espagnol, à 12 points du leader, mais qui sait, peut-être pour une remontada historique en Liga.
Amaya Cazenave pour France Bleu. Une seconde pour vous rappeler l'information principale de ce journal. Le président Bouteflika en Algérie qui ne briguera pas de 5e mandat. Évidemment, c'est une information que vous pouvez retrouver sur notre site internet francebleu.fr.
Merci pour toutes ces informations, Frédéric Dorel. Passez une excellente soirée.
Merci.
Et à demain.
À demain.
Vous restez avec nous, évidemment. Sandrine Kiberlin et la réalisatrice Lisa Azuelos dans quelques instants après ce petit point météo.